Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell. Aujourd'hui, on a comme invité Jean-Marc Manac, qui va nous parler de son livre « La vie privée, un problème de vieux con ». Avec les amis d'Orwell, on est avec Bénédicte à la technique, Jean-Pierre comme animateur et donc Jean-Marc Manac qui est cofondateur des Big Brother Awards, journaliste spécialiste de l'impact des technologies sur la société, sur les questions de surveillance, les libertés, la vie privée, la sécurité informatique. Donc bonjour Jean-Marc.
Bonsoir.
Donc aujourd'hui tu vas nous parler de ton livre qui vient de sortir en juillet cette année, La vie privée, un problème de vieux con. Point d'interrogation, qui est sorti aux éditions FIP, je ne sais pas, ou FYP, je ne sais pas comment
FYP,
dire.
FYP, oui.
Voilà. Donc, je sais que ce livre a été tiré de deux articles que tu as écrits. Donc, le premier, La vie privée, un problème de vieux con, donc, qui reprend le même titre en mars 2009. Et puis un autre qui fait suite, Vie privée, le point de vue des petits cons, donc, qui est sorti le 4 janvier 2010. Donc, tu peux nous expliquer un peu le contexte, pourquoi tu as écrit ces articles et ensuite ce livre ?
C'est une longue histoire en fait, parce que ça fait donc 10 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la montée en puissance de la société de surveillance, que je chronique en tant que journaliste sur Internet Actu.
D'ailleurs, on peut rappeler le blog. Ouais.
Donc en fait, à l'époque, il y a 10 ans, j'étais à transfert.net, qui était un truc absolument génial, mais qui a explosé avec la bulle Internet. Et puis, en parallèle, je faisais partie de ceux qui ont créé les Big Brother Awards. Donc depuis quelques années, je continue mon travail de journaliste sur Internet Actu, et il s'est passé un truc intéressant suite à la polémique autour du scandale Edwige. À l'époque, j'étais aussi journaliste au Monde.fr, et la rédaction du Monde.fr, où je faisais l'investigation, m'a proposé d'ouvrir un blog, ce qu'ils appellent un blog invité, consacré à la société de surveillance, partant du constat qu'aujourd'hui, ces questions-là de vie privée, de liberté, de surveillance, on voit au chapitre dans le débat politique. Alors qu'avant, les années précédentes, c'était quelque chose qui était réservé aux associations de défense des droits de l'homme. C'était minoritaire, ça n'avait pas vraiment voix au chapitre. La polémique, le scandale autour d'Edwige a vraiment changé complètement la donne. Donc, ils m'ont demandé de créer un blog qui s'appelle Bug Brother, que j'ai créé sur le monde.fr. Et là, ça a été vachement intéressant parce que je me suis aperçu à quel point il y a plein de gens s'intéressaient à ces questions-là, que ce n'était pas un épiphénomène réservé aux défenseurs des droits de l'homme ou à quelques personnes qui, d'un point de vue politique, à qui ça pose un problème à la société de surveillance. Donc ça, c'est sur le contexte général. Maintenant, pour ce qui est de cet article-là, La vie privée, un problème de vieux con, faut remonter à il y a 3 ou 4 ans. C'était un débat organisé par la FING, qui est la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui chapeaute le travail sur Internet Actu, qui est une association qui essaye de mettre autour d'une même table des universitaires, des représentants des administrations du gouvernement, des entreprises, des associations, pour que les gens discutent de qu'est-ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce que c'est que les nouvelles technologies. Et on avait demandé à des étudiants de l'ENSI, qui est une école de design industriel, de travailler sur la notion d'apprenti sorcier. Qu'est-ce que vont faire les apprentis sorciers des nouvelles technologies dans les années qui viennent ? Et la quasi-totalité de ce qu'ils avaient inventé, c'était des choses qui avaient trait à la société de surveillance ou à des technologies de surveillance. C'était par exemple une puce RFID collée sous le pied des bébés. C'était une puce sous-cutanée avec un numéro d'identifiant pour arriver à te reconnaître. C'était une sorte de drone qui repérait les comportements suspects dans les manifestations et qui envoyait des tasers ou des gaz paralysants pour les gens qui avaient des comportements suspects. Voilà, toute une inflation comme ça de choses qui était systématiquement, c'était un côté orwellien comme ça. Et donc je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que la notion d'apprenti sorcier, pour vous, c'est lié à ça? Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être les nanotechnologies, la pollution, il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer. Et leur réaction, enfin, ce n'était pas leur réaction dans l'ensemble, il y en avait un ou deux qui m'avaient regardé, mais comme un vieux con, en me laissant entendre que, mais ils avaient grandi avec les RFID, la biométrie, la vidéosurveillance, ça faisait partie de leur univers, de leur quotidien, et que bah, si ça me posait un problème, c'est que j'étais un vieux con. Et là, je me suis retrouvé comme un vieux con, et ça m'a posé beaucoup de questions. J'ai mis 3 ans à maturer ça, parce que je me disais, mais si ce que j'explique sur cette montée en puissance de la société de surveillance et les problèmes que ça pose pour une démocratie ou pour la vie en société, pour nos libertés, bah, si c'est considéré comme un problème de vieux con par la jeune génération, c'est mal barré, quoi. Et je suis tombé sur un article dans une revue de marketing direct, donc les professionnels de la marchandisation des données personnelles, qui avait rencontré un universitaire qui, lui, bossait sur la sécurité informatique avec la NSA. Donc la NSA, cette agence qui espionne les télécommunications, donc des gens bien, a priori. Et l'universitaire expliquait que ce qui est en train de se passer sur Internet, cette libération, comme ça, cette facilité décomplexée qu'ont notamment les jeunes internautes de s'exprimer, c'était peut-être similaire à ce qui s'est passé pendant la révolution sexuelle. C'est-à-dire des gens qui ont un rapport décomplexé, non pas à la sexualité, mais à l'information, et à ce qu'on appelle la vie publique, au sens où sur Internet, on peut mener une vie publique, ce n'est pas uniquement réservé aux stars, aux gens qui ont accès aux grands médias, tout un chacun peut s'exprimer, et que potentiellement, ça va avoir autant d'impact que la révolution sexuelle a eu un impact dans la société, à savoir ça va lever des obstacles, lever des barrières, et permettre d'avoir un rapport plus décomplexé au fait de se montrer. Et c'est là où moi j'ai fait un parallèle qui était, jusqu'à la révolution sexuelle et au combat des féministes, si une femme se baladait avec un décolleté, une mini-jupe, qu'elle était violée, ça pouvait être considéré comme circonstance atténuante pour le violeur. Et il a fallu la révolution sexuelle et le combat des féministes pour faire que le problème, c'était le voyeur et le violeur, pas la femme qui était une catin parce qu'elle était belle ou désirable. Et ce qui est en train de se passer sur l'Internet, je fais l'hypothèse que c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on se focalise énormément sur ces petits cons qui montent leurs fesses sur Facebook, ce qui est complètement caricatural par rapport à l'utilisation que font les gens sur Facebook, et on se focalise vachement moins sur les violeurs ou sur les voyeurs, sur les gens qui vont licencier. C'est-à-dire qu'on va pointer du doigt l'étudiant qui a été licencié parce qu'il s'est exprimé sur YouTube, qu'il a exprimé ses opinions politiques sur YouTube ou qu'il est apparu bourré dans une photo sur Facebook. On ne va pas poser le problème de son employeur qui lui fait de la discrimination en le licenciant à cause de ça. Et donc, et en faisant ce parallèle-là avec la révolution sexuelle, j'ai viré ma cutie, on va dire. J'ai changé de paradigme par rapport à ce que je pouvais dire ou faire depuis une dizaine d'années, au sens où si on continue à envisager cette montée en puissance de l'Internet uniquement sous l'angle des questions de surveillance et d'une question qui serait celle de la technologie de surveillance, la seule solution, c'est de porter la burqa numérique. Donc se taire, se cacher en permanence. Et je me fais une autre idée de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie que de devoir porter une burqa numérique. J'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie de pouvoir lire, j'ai envie de pouvoir écouter des gens. Et partant de là, je fais cette hypothèse-là, qu'on a énormément à gagner avec toutes ces libertés qui sont à l'œuvre et qu'on est en train de conquérir sur Internet.
Et pourtant, on vit quand même dans une société de contrôle, comme dit Foucault. Donc, il y a une sorte de... Comment on fait ? Alors, on se montre, on a une vie publique sur Internet, mais on ne peut pas non plus nier le fait qu'il y a des voyeurs, il y a un État qui surveille.
La différence, c'est que sur Internet, quand tu décides de partager quelque chose, que ce soit une photo, une vidéo, un lien sur Facebook, ou quand tu écris un commentaire sur un blog, ou si toi-même tu as un blog et que tu t'exprimes sur ton blog, c'est toi qui décides de t'exprimer. C'est de la liberté d'expression. Il y a personne qui... C'est toi qui contrôle. Et si tu n'es pas content de ce que tu as fait, tu peux toujours le retirer après. Mais en même temps, généralement, il faut assumer. Quand tu t'exprimes publiquement, parce que c'est de la vie publique sur Internet, tu vas être lu par plein de gens, il faut assumer ce que tu dis. A contrario, quand on me prend mes empreintes digitales, si je veux faire une carte d'identité ou si je veux aller aux États-Unis, ou quand je suis vidéosurveillé à mon insu, ou quand je suis mis dans des fichiers sociaux, voire des fichiers policiers, si quelqu'un me dénonce, je n'ai pas le contrôle de ces fichiers-là. Je peux pas disparaître de ces fichiers. Je ne sais pas qui me surveille quand, pourquoi, comment. Là, c'est de la surveillance. Et c'est là où c'était très intéressant, cette histoire de Facebook, d'Edwige, pardon. Je reviens à Edwige, parce que au moment où il y a eu la polémique Edwige, on a vu les défenseurs du fichier policier, enfin, c'est un fichier de renseignement, qui disaient, mais qu'est-ce que vous nous prenez la tête avec Edwige alors que vous balancez tout sur Facebook ? Et c'est, franchement, c'est putassier comme argument. Enfin, à ce moment-là, il faut considérer que tous les journalistes, c'est la Stasi ou c'est des flics. Enfin, c'est pas, les journalistes, ils font de la liberté d'expression. Les gens qui s'expriment sur Facebook, sur les blogs, c'est de la liberté d'expression, c'est pas du fichage. Quand je suis dans un fichier policier, un fichier de renseignement qui voulait à l'époque ficher à partir de l'âge de 13 ans les convictions politiques, voire les mœurs sexuelles et religieuses d'individus, là c'est un fichier policier contrôlé par les services de renseignement qui cherchent les terroristes, ou qui cherchent les dissidents, ou les forces subversives, ça n'a rien à voir. Et là où ça a été très intéressant, c'est de voir que le débat, dans les mois qui ont suivi le scandale Edwige, en fait on a commencé à voir apparaître dans les médias, des unes, y compris Libération, il y a eu aussi un envoyé spécial sur France 2, qui assimilait Facebook à Big Brother, qui assimilait Facebook et Internet à une société de surveillance. Et c'est là où la thématique du droit à l'oubli, enfin cette problématique du droit à l'oubli est apparue, mais ils n'ont pas parlé du droit à l'oubli par rapport aux fichiers policiers ou aux fichiers sociaux. Ils ont parlé du droit à l'oubli par rapport à Internet. Et donc il y a eu une sorte de dérive comme ça dans le discours, voire de manip politique, je ne dis pas que ça a été fait sciemment, mais où on a arrêté de se poser les vraies questions, à savoir, oui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes chaque année qui perdent leur emploi ou qui n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils sont dans les fichiers policiers, dont une partie le sont à tort. Par contre, le nombre de personnes qui ont été licenciées à cause de Facebook ou parce qu'ils ont fait des choses sur Facebook ou sur un blog, c'est infime. Il y en a beaucoup moins que de gens qui ont été licenciés à cause des fichiers policiers ou qui ont eu des problèmes à cause des fichiers sociaux. Pourtant, la problématique du droit à l'oubli, elle était exclusivement focalisée sur Internet. Donc c'est j'ai un ami qui tétoie qui dit que c'est les services de renseignement russes appellent ça la Marichkovska, je crois. T'agites le chiffon rouge devant le taureau et il va foncer dedans. Bah là, c'est exactement la même chose. Il y a plein de gens qui ne sont pas actifs sur Internet. Et dès qu'on commence à leur parler de société de surveillance, ils vont dire « Ah ouais, non mais sur Internet, de toute façon, les gens, ils balancent tout. Donc les fichiers policiers, c'est pas grave. Au moins, on sait que les policiers, on a confiance et ils contrôlent les fichiers policiers. » Ça n'a rien à voir.
Ton parallèle avec la révolution sexuelle me paraît intéressant. Dans le sens où, bien que moi, je dirais que c'est dans les années 70, il y a eu l'idée, par rapport à toute une société qui était un peu cadenassée avant, que finalement, il n'y avait pas le combat politique d'un côté et puis la vie privée de l'autre, mais que c'était un ensemble et que tout était politique. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la révolution sexuelle. Et il y avait, par rapport au gaullisme et tout ça, un souci de transparence totale, avec d'ailleurs des excès ensuite qui ont pu être répercutés dans certaines communautés avec des où chacun disait, voilà, toi, tu dois faire ça. Tout doit être dit, quoi. Donc, le parallèle, il est intéressant, peut-être, avec Facebook et avec Internet. Mais je pense que peut-être qu'il faut distinguer, c'est une question que je pose, Internet et Facebook, c'est peut-être pas vraiment la même chose. Peut-être que Facebook fait appel à, justement, à un déploiement de notre vie sur la toile qui n'est pas la même que Internet, il y a peut-être des limites à avoir. Et la question, c'est effectivement, par un vieux con, petit con, la question, c'est de savoir si c'est vraiment toute une génération qui n'a connu que la vidéosurveillance, que la biométrie, les nanotechnologies. Est-ce qu'eux s'approprient toutes ces techniques pour finalement les détourner après, se les approprier? Ceux qui ont connu l'avènement de la télé étaient fascinés par la télé au début, ils la regardaient tout le temps. Et puis on finit par être critique par rapport à la télé. Alors, comment toi tu vis justement cette.
On ne va pas résumer Internet à Facebook, loin de là. Facebook, c'est une boîte privée américaine qui essaye de faire un maximum de données à partir de tes données personnelles et qui. Initialement a été créé pour être un réseau fermé et plus ça va, plus ils essayent d'avoir de créer de la vie sociale et de la vie publique et non plus de la vie privée. Moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où tu t'exprimes sur Internet, enfin sur le web, pardon, quand tu rends public une information, à partir du moment où cette information peut être lue par des gens, c'est plus de la vie privée, c'est de la vie publique. C'est quand tu es sur Facebook, que tu as un profil fermé réservé à tes amis, c'est pas vraiment de la vie publique. Parce que tu as fermé ton profil auprès d'un certain nombre d'amis, mais à partir du moment où, en règle générale, les gens ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'amis, c'est plus de la vie privée, c'est de la vie sociale. C'est comme si tu fais quelque chose en boîte, ou dans une soirée avec plein de potes. Sauf que c'est pas plein de potes, 10 potes, c'est 100 potes. sachant que, comme c'est sur Internet, ça laisse des traces, tout un chacun, enfin n'importe lequel d'entre eux, de ses amis, peut être habilité à faire une capture d'écran et à le balancer ensuite, à le rendre public. C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, où il y a 3 salariés qui, dans une discussion sur un profil fermé de Facebook, ont été licenciés par leur employeur, parce qu'il y a une des personnes qui lisait la discussion sur les profils fermés, qui a fait un copier-coller de tous les propos litigieux, enfin de toutes les, je sais pas, c'était des insultes, en tout cas, ils n'étaient pas contents de leur patron. Il y a quelqu'un qui a lu ça, qui a fait un copier-coller, qui a balancé ça au patron, et elles ont été virées. Bon, donc ce qui plus est, c'est Facebook, c'est une entreprise américaine. Non, c'est pas de la vie privée. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les termes du débat sont extrêmement mal posés. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la vie privée et politique dans les années 70. Aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est pas tant une question que ce soit politique, au sens où ce que je qualifie moi de petits cons, c'est-à-dire ceux qui effectivement s'expriment librement sur le net et qui sont des internautes assidus, mais pas seulement en termes de consultation, mais parce qu'ils s'expriment beaucoup sur le net. C'est pas une question de vie privée, c'est une question de vie publique. C'est Laurent Chemla, qui est un on l'appelle les dinosaures de l'Internet en France, quelqu'un qui a commencé dès les années 80 à s'intéresser à Internet, qui avait résumé ça en disant que jusqu'à l'avènement de l'Internet, la liberté d'expression, c'est quelque chose de virtuel. Parce que seuls ceux qui avaient accès aux médias pouvaient profiter de la liberté d'expression et être entendus. Parce que tu peux toujours faire ton fanzine dans ton coin, si jamais personne ne lit, c'est bien la liberté d'expression, mais ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, grâce à Internet, n'importe qui, depuis son ordinateur avec sa connexion Internet, peut s'exprimer et avoir la possibilité vraiment d'être entendu. Donc paradoxalement, grâce à Internet, la liberté d'expression est quelque chose qui est devenu très concret, réel. Et donc, ce que je qualifie moi de petits cons, c'est qu'ils en usent, voire ils en abusent, de la liberté d'expression. Mais c'est pour se montrer. C'est pour se montrer comment ils sont intelligents, beaux, pertinents, partager des choses. C'est pas de la vie privée. Et c'est un des exemples que je donne dans mon bouquin. C'est une adolescente qui montrait beaucoup de photos d'elle sur le net. Et une sociologue qui lui demande mais vous êtes exhibitionniste ou, non, je suis pas exhibitionniste. J'ai envie de partager. Il y a des gens qui me prennent en photo. Et je trouve que ces photos sont belles. Donc si je trouve que la photo est belle, bah, je la montre. Parce qu'elle est belle. On ne pose pas la question à une mannequin professionnelle, est-ce que vous êtes exhibitionniste ? Elle fait son boulot, elle essaye d'être belle. Voilà, bah c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils ne sont pas mannequins, mais ils peuvent se montrer en photo. Ils ne sont pas journalistes, mais ils peuvent s'exprimer. Ils ne sont pas cinéastes, mais ils peuvent faire des vidéos. Ils ne sont pas documentaristes, mais ils peuvent faire des reportages. Et donc, c'est toute cette possibilité de s'exprimer qui n'existait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas les outils techniques pour le faire, et la possibilité d'être entendu, qui aujourd'hui existe, et donc il y a énormément de personnes qui s'en saisissent. Il y en a qui le font bien, d'autres qui ne le font pas bien, mais ce n'est pas de l'ordre de la vie privée, c'est de l'ordre de la vie publique, voire de la vie sociale, si effectivement tu fais ça en cercle un petit peu fermé, sur ton Facebook un petit peu fermé.
Mais il y a une notion dont il faut parler également, c'est la question du fichage à des fins commerciales, parce que Facebook, justement, utilise aussi toutes ces données privées à des buts, dans un but commercial, donc... qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que les gens qui l'utilisent ont vraiment conscience aussi de ça ?
Alors, c'est une question qui revient depuis 10 ans. C'est très régulièrement, on me pose la question depuis 10 ans. Quand j'ai commencé à participer aux Big Brother Awards, à l'époque, on était journaliste internet.
Il faut rappeler ce que c'est que les Big Brother Awards.
Big Brother Awards, ça existe dans une dizaine de pays. Et en fait, c'est des gens qui organisent une compétition, une sorte d'Oscar de la surveillance. Et donc, on monte des dossiers tous les ans sur des gens, des entreprises, des administrations qui portent atteinte à la vie privée ou aux libertés, ou qui prônent la surveillance. Et donc, il y a une remise de prix avec un jury constitué d'universitaires, d'artistes, de syndicalistes, de magistrats, d'avocats. Et donc, nous, et c'est la chose dont je suis le plus content, c'est que depuis 10 ans, tous les ans, on rendait public entre 30 et 60 dossiers. Donc, on a documenté cette montée en puissance de la société de surveillance. Et à l'époque, donc, quand on a créé ça, on était journalistes sur Internet. On pensait naïvement qu'on aurait énormément de candidatures par rapport à Internet et par rapport au fichage commercial sur Internet. Et ce qu'on a découvert, chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est que ces problématiques de société de surveillance, c'était beaucoup plus par rapport à des technologies de surveillance, biométrie, vidéosurveillance, ou à des fichiers sociaux, policiers, qu'à des problématiques sur Internet. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui font du business de données personnelles sur le net ont compris depuis les années 90 que c'était pas à leur avantage, c'était pas à leur intérêt d'aller trop loin dans la violation de la vie privée de leurs clients. Tout simplement parce que quand tu fais du business avec des gens, bah, faut pas leur taper dessus. Et donc ils sont relativement respectueux, pas tous, mais ils font attention. Si je prends un exemple, le pire, c'est Google, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui a plus de données personnelles sur autant de gens que Google. C'est hallucinant le nombre d'informations qu'ils ont sur les gens. Google est dans une démarche depuis 2 ans où ils expliquent comment on peut quitter Google, comment on peut effacer ces données de Google. Alors, pas complètement toutes, parce qu'ils ont des obligations légales qui fait qu'il y a un certain nombre d'informations qu'ils doivent garder à disposition de la police et de la justice, mais c'est la première fois que je vois une entreprise qui explique comment disparaître, comment ne plus être client chez Google. Donc ils ont une vraie réflexion sur la protection de la vie privée. Je ne défends pas Google à tout craint, parce que potentiellement, ils ont un pouvoir de nuisance qui est colossal. Mais c'est justement parce qu'ils savent qu'ils ont un pouvoir de nuisance absolument colossal qu'ils essayent de faire attention. En résumé, en tout cas, pour ce qui est des Big Brother Awards, si tu compares le nombre de sites web ou de problématiques liées à Internet qui ont été nominés par rapport aux technologies, aux projets de loi ou aux fichiers, c'est peanuts. Et en fait, régulièrement, donc on me demande, oui, mais bon, on est fiché quand même sur Internet par des régies publicitaires, par des sites web. Et oui, mais la majeure partie de ces fichiers sont des fichiers qui sont anonymisés, qui ne sont pas vraiment mal exploités, au sens détourné de leur finalité. Après, tu as les publicités ciblées. Pour finir là-dessus, moi, ça fait des années que je surveille les surveillants, mais au sens littéral du terme. C'est-à-dire que quand je donne mon email à une entreprise, je mets toujours un identifiant qui correspond au nom de cette entreprise pour voir s'ils vont mal se servir de mes emails et de mes données personnelles, les partager avec d'autres entreprises, etc. Et en 10 ans, j'ai quasiment eu aucun cas de détournement de fichiers ou d'utilisation détournée de ces données personnelles. Et je finirai là-dessus. L'éventuelle atteinte à la vie privée que ça pourrait être cette exploitation des données commerciales que possèdent les entreprises Internet est bien moindre en termes, dans ce que j'ai vu pour l'instant, à part quelques cas, il y a toujours des cas, mais en règle générale, c'est bien moins problématique que les problèmes posés par les fichiers sociaux ou par les technologies de surveillance.
Parce que je trouve qu'on ne peut pas non plus, on est quand même dans une société capitaliste, et les systèmes de surveillance sont quand même très liés aussi au système économique qui prospère. Il y a un gros marché financier autour de ça. Et il y a aussi, si on se détache un petit peu d'Internet, même la vidéosurveillance qui peut servir aussi dans le métro ou les publicités à étudier des comportements.
Mais ça, c'est pas la même chose.
Toi, tu as envie de séparer Internet du reste?
C'est là où, dans le livre, il y a deux parties. Il y a la première partie où j'essaye d'expliquer ce pourquoi l'Internet n'est pas Big Brother, n'est pas cette société de surveillance, que c'est d'abord et avant tout un espace de liberté d'expression et que je pense que l'Internet est plus du côté de la solution que du problème par rapport à cette montée en puissance de la société de surveillance. Et la deuxième partie, où c'est là où ça s'appelle la vie privée en problème de vieux point d'interrogation, où la deuxième partie où je reviens sur les politiques sécuritaires depuis 10 ans, sur la vidéosurveillance, sur la biométrie, sur tout ce business des technologies de surveillance, où effectivement on a face à nous, et ça c'est aussi un autre enseignement de 10 ans de Big Brother Awards, la surveillance c'est d'abord avant tout un business, au sens où c'est un des rares secteurs économiques en pleine croissance depuis 10 ans, avec un chiffre d'affaires qui n'arrête pas d'exploser. Et c'est en même temps quelque chose qui est instrumentalisé par un certain nombre d'hommes politiques, ou pour prendre cet exemple de la vidéosurveillance, on sait aujourd'hui que c'est efficace pour un truc, se faire réélire. Mais c'est pas efficace pour lutter contre la délinquance, pas dans la rue en tout cas. Par contre, d'un point de vue électoraliste, c'est efficace. Donc on a effectivement une sorte de complexe, c'est pas militaro-industriel, c'est sécuritaro-industriel, où on a des industriels qui vont développer des technologies sécuritaires, des technologies de surveillance, parce que ça marche, ça rapporte de l'argent, parce que après, depuis les attentats du 11 septembre 2001, puis même ça a commencé avant, ça a commencé en 95 avec Pasqua, la loi sur la vidéosurveillance, le colloque de Villepinte en 97 avec le Parti Socialiste qui commence lui aussi à dire, Jospin qui dit, la première des libertés c'est la sécurité, Patrick Devedjian qui le lendemain dit, voilà, on a gagné la bataille idéologique. Le Parti Socialiste accepte de dire que la première des libertés c'est la sécurité et qu'il faut lutter contre la délinquance. Voilà. La droite avait gagné la bataille idéologique en 97. Depuis 2001, c'est la radia, c'est la curée. Et ça marche vachement bien d'un point de vue business et ça marche vachement bien d'un point de vue électoraliste parce qu'on surfe sur la fibre populiste et sur la peur des gens. Là, on commence à voir les limites avec depuis le discours de Grenoble de Sarkozy parce qu'il va un petit peu trop loin dans cette exploitation politicienne de la peur et de l'insécurité. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est d'abord et avant tout un business, mais c'est pas l'Internet. Les gens qui font du business sur le net, c'est pas pour ficher des gens.
Mais ça sert aussi dans un but commercial, d'étude des comportements.
Oui.
Enfin, je veux dire, ça, c'est une donnée aussi qui est très importante, qui touche aussi bien Internet que, de manière plus générale, les technologies de surveillance.
Là, pour le coup, ça touche plus le net, parce que c'est sur le net où ils arrivent à avoir plus de données comportementales sur les gens, parce que ben, l'informatique, ça laisse des traces. Maintenant...
Je pense aussi aux puces RFID.
Ça, c'est différent.
Qui vont se glisser un peu dans toutes nos...
Enfin, c'est différent. L'Internet, il y a deux choses. Il faut bien faire la distinction entre... Quand je m'exprime sur le web, et je partage quelque chose au public, et quand je tape un mot dans un moteur de recherche. Si je tape cancer du sein ou cancer de la prostate sur Google, c'est de l'ordre de la vie privée. C'est pas de la vie sociale, c'est pas de la vie publique. Ça regarde personne, ça ne regarde que moi. Après, que va en faire Google ? Google et les autres régies publicitaires ou les autres sites web qui vont savoir que l'ordinateur X, ils n'ont pas mon nom, mais ils ont l'ordinateur X, éventuellement ils peuvent trouver mon nom s'ils font du data mining, s'intéresse au cancer de la prostate. Et c'est là où effectivement ça pourra potentiellement poser des problèmes à terme en termes d'atteinte à la vie privée. Mais pour l'instant, il y a quelques cas où ça a posé des problèmes, mais c'est un épiphénomène. C'est anecdotique. Par rapport aux cas où, avec des technologies de surveillance, typiquement la biométrie, la vidéosurveillance, voire la RFID, bon, pour l'instant, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cas d'atteinte à la vie privée avec la RFID. C'est plus une menace potentielle qu'une menace avérée. Mais ce n'est pas la même chose de s'exprimer que de se balader. Il y a d'un côté la liberté de circulation. Donc là, c'est taper un mot-clé dans un moteur de recherche, consulter un site web. Là, c'est de la vie privée. Et la liberté d'expression, s'exprimer sur Facebook, en blog, en commentaire. C'est deux choses différentes qu'il faut bien séparer.
Mais il y a effectivement le système qui nous surveille ou qui regarde nos comportements, mais est-ce qu'on ne change pas nous-mêmes nos comportements ? Et à partir de quand on ne se crée pas des... Facebook ou Twitter ne crée pas des besoins finalement artificiels dont on pourrait se passer ? Je veux dire, beaucoup de gens, moi, me disent... grâce à Facebook, j'ai pu retrouver des gens que j'avais pas vus depuis des années. Mais en quoi ce besoin qu'est-ce que ça apporte de plus ? Je veux dire, on est déjà surinformé par Internet. Qu'est-ce que ça apporte de ? Quelles sont les limites qu'on se fixe ? Est-ce que les gens qui sont nés sous la vidéosurveillance et les biométries, quelles modifications de comportement finalement ?
Je vais en revenir au parallèle que je fais avec la libération sexuelle. Au moment où il y a la libération sexuelle, qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu avais la possibilité, c'était plus simple de pouvoir faire l'amour plus facilement avec quelqu'un d'autre et moins interdit. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire l'amour avec tout le monde. Ce n'est pas des partouts généralisés. Bon. C'est juste que pour ceux que ça intéresse, ils ont cette possibilité-là sans être ostracisés par la société, sans être stigmatisés comme étant des prostituées ou des pervers sexuels. Aujourd'hui, avec ces technologies que ce soit les téléphones portables, l'Internet partout tout ce qui est réseaux sociaux, tu as la possibilité de retrouver des potes, de t'exprimer, de te faire un nom, de devenir, d'avoir, c'est même pas ton quart d'heure de célébrité, ça peut être ton mois ou tes années de célébrité sur tel ou tel domaine, tu as la possibilité. Ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais ceux que ça intéresse, on va pas leur interdire de le faire. Parce qu'effectivement, voilà, on est dans une société de droit et c'est la liberté d'expression, puis ça nuit à personne. C'est un journaliste sur Wired qui avait dit ça en disant que tout le monde est un petit... Enfin, il disait pas tout le monde est une petite sœur, mais c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à ton niveau, à ton échelle, tu peux devenir entre une personnalité, non pas seulement une personnalité publique reconnue, mais éventuellement une star. Et tu as effectivement un certain nombre de personnes qui vont s'amuser à jouer à la star. Bon, ben voilà, ça ne porte pas atteinte à qui que ce soit. T'en as qui réellement deviennent des professionnels de leur en musique. On a quelques cas comme ça de groupes qui sont nés sur le net et qui ont fait carrière. De photographes qui ont commencé sur le net, qui n'étaient pas professionnels, qui maintenant sont des professionnels. Bon, le truc, c'est ça. C'est qu'il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à baiser. Enfin, c'était pas ça, la révolution sexuelle. C'était ôter. Enfin, c'était interdire d'interdire. Enfin, l'idée, c'était ça. C'était, oui, j'ai la possibilité de le faire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Bah, sur le net, c'est pareil. On n'est pas obligé de s'exprimer, mais au moins, on peut le faire.
On va continuer de parler de tout ça après une petite pause musicale. On va écouter Frollo avec une chanson qui s'appelle « Au commencement ».
Commencement, rien n'était simple, je ne parlais pas couramment la langue de mes ancêtres, j'étais novice et ignorant. Novice dans le vice,
ignorant du rang, se rouler par terre, quelle misère, prendre des gamelles au bout des champs. Sans maîtriser le vocabulaire, je me suis mis à parler, j'ai toujours eu le contraire qui font de mes pensées quand téméraire je fais une blague. Y'a que mon rire qui résonne, je ne sais toujours pas m'exprimer, alors je ne parle à personne. J'ai appris à force d'attendre qu'il faut surtout bien écouter, qu'il ne suffit pas d'entendre, vivre dans les bruits des marais, de la jungle, des villes, des grands stades. Tout est une expression, chacune a son indépendance, le reste n'est qu'une façon de parler. L'important dans la discussion, c'est bien la vérité du dit. Et pour parler du mensonge, c'est un luxe qui est gris. C'est fatigant de ne plus savoir à quel mot on peut se fier. Aiguisons notre regard, gardons l'oreille bien affûtée. Maintenant je sais lire sur les lèvres, mes yeux aussi sont attentifs au moindre geste selon l'humeur. Le corps se révèle à toute heure, ce qui n'est pas dit dans les livres est écrit sur la peau. En dernier recours pour comprendre, il faut pouvoir toucher les mots. J'en toucherai un mot à mon cheval pendant que je voyage sur son dos, dans mes activités postales, en randonnée, en rodéo. Parce que je transporte des lettres, j'en écris de toute façon, ça n'a pas été simple, tout reste à faire au fond.
Toujours avec les amis d'Orwell sur Radio Libertaire 89.4. On est avec Jean-Marc Manac qui nous parle de son livre La vie privée, un problème de con, point d'interrogation.
De vieux con.
publié aux éditions FYP ou FIP en juillet 2010. Donc, bon, effectivement, moi j'avais envie d'insister un petit peu, mais on ne va pas faire que de parler de ça, mais de tout ce développement, notamment des puces RFID qui vont permettre aux publicitaires de savoir exactement. Quel est ton profil à partir des objets que tu auras achetés, le lien qui pourra être fait avec, on pourra recevoir des publicités sur notre téléphone portable. Enfin, j'ai envie d'être peut-être un peu, enfin c'est pas que j'ai envie, mais j'ai l'impression que je suis un peu moins positif que toi sur tout cet aspect.
Alors, je suis pas positif. Je dis pas que l'invasion de puces RFID c'est un grand bien, enfin que c'est un bienfait de l'humanité ou c'est pas non, loin de là. Pour moi, ça participe de la banalisation de la société de surveillance. C'est ce qu'on avait dénoncé avec l'obligation du pass Navigo. C'est qu'à partir du moment où, dans un espace public, on est obligé de porter une puce RFID liée à son nom, que ce soit une puce, même le pass Navigo découverte, soi-disant anonyme, c'est lié à une carte que tu dois avoir à côté où il y a ton nom, ton prénom, ton adresse et ta photo. Donc bonjour l'anonymat, quoi, avec un numéro. Avec cette banalisation, la systématisation des caméras de vidéosurveillance fait que c'est un espace public qui est fliqué en permanence. Et donc, ce qu'on dénonçait, ce n'était pas tant le fait qu'on puisse me surveiller mes trajets à moi, mais que cette banalisation de la société de surveillance. Et c'est clair que cette invasion de puces RFID fait partie de ça. Par contre, moi, ce que j'espère, et ce que j'ai commencé à documenter, et j'en fais la conclusion du bouquin, c'est que, de même que l'Internet s'est développé parce qu'il y a des hackers qui ont développé des logiciels, qui ont craqué des protections pour montrer qu'il y avait des failles de sécurité, qui sont intéressés à la sécurité informatique. Et ce sont des hackers aussi qui ont développé les logiciels qui permettent de se protéger sur le net. Bah, je vois de plus en plus de hackers qui s'attaquent aux objets. Ça fait des années que je fais des articles où j'explique comment il y a des hackers qui ont réussi à créer des fausses empreintes digitales pour contourner les systèmes biométriques, qui ont créé des systèmes pour casser les puces RFID ou pour les cloner. Un autre exemple, c'est un Américain qui a réussi à cloner une puce sous-cutanée. Vous savez, ces puces qu'on met sous la peau des chiens, mais qui commence aussi à équiper certains malades d'Alzheimer aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a réussi à la cloner. Donc en montrant les failles du système, des faux passeports. On a vu quelqu'un qui traversait la douane en Hollande en se faisant passer pour Elvis Presley, avec la photo, la date de naissance, tout. Bon. Voilà. Donc il y a de plus en plus de hackers qui s'attaquent à la société de surveillance et aux technologies, à ces technologies-là, biométrie, vidéosurveillance, contrôle. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus de gens qui sauront qu'il y a des hackers qui s'attaquent à ces technologies-là, qui vont donc être ridiculisés pour un certain nombre d'entre elles, et où à un moment on va arriver aux limites, et où ils pourront pas, les partisans, enfin les industriels de ces technologies de surveillance et de ces technologies sécuritaires, et les politiques qui essayent de les exploiter, ne seront plus crédibles quand il y aura effectivement une généralisation ou une utilisation de plus en plus répandue de systèmes pour contourner ces dispositifs-là. Et donc, moi, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'il y a plein de petits cons qui sont en train de hacker, non pas seulement l'Internet, mais ces technologies de surveillance pour expliquer que, bah oui, on peut arriver à passer outre. Bon. De même que sur le net, par défaut, t'es pas anonyme. Par contre, c'est ce que je résume dans le bouquin en disant que dans les années 60-70, Warhol avait dit dans le futur, tout le monde aura droit à son quart d'heure de célébrité. La question aujourd'hui, c'est comment avoir son quart d'heure d'anonymat. Bon, bah, y a des hackers qui sont arrivés et qui ont mis à disposition des gens des technologies, des outils, des logiciels qui permettent d'avoir des quarts d'heure d'anonymat ou un peu plus qu'un quart d'heure d'anonymat sur Internet et de faire des choses sans être tracé. Même si par défaut, effectivement, tout ce que tu fais sur le net va être conservé par ton FAI, par les moteurs de recherche, etc. Et ben, de même qu'on peut arriver à être anonyme dans certaines fenêtres de temps sur le net, on peut arriver à contourner les systèmes de traçabilité dans l'espace physique. Et donc tous ces petits cons qui contribuent à hacker cette société de surveillance, pour moi, c'est vachement bien parce que ça va permettre, j'espère, de faire qu'on ait un peu plus de liberté et moins de flicage.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que bon, les nouvelles technologies ne sont pas accessibles à tout le monde. Enfin, ça demande, comme tu parles de hackers, donc de gens qui sont quand même très spécialisés. Est-ce que, effectivement, le grand public pourra se protéger ou est-ce que ce sera réservé qu'à des personnes qui sont très...
Ce sera réservé à certaines personnes qui se donnent les moyens, si jamais tu veux le faire bien et pendant longtemps. Maintenant, de plus en plus, ça va être privacy by design, comme ils disent à la Commission européenne, et pas seulement à la Commission européenne. C'est-à-dire que de plus en plus, je vais prendre un exemple concret. Il y a eu une attaque contre Google l'année dernière parce qu'ils ont réussi à pirater Gmail. Des Chinois ont réussi à pirater Gmail. Donc, qu'est-ce qu'a fait Google? Ils ont sécurisé par défaut l'utilisation de Gmail. Tous les gens qui se connectent maintenant sur Gmail, c'est HTTPS. Donc, c'est un canal sécurisé qui fait que ton FAI ne sait pas ce que tu cherches. FAI, c'est fournisseur d'accès. Google sait ce que tu cherches, toi tu sais ce que tu cherches, mais quelqu'un qui se met entre Google, les ordinateurs de Google et toi, il ne sait pas ce que tu cherches. Bon. Et ça, de plus en plus, on voit des sites web qui sont HTTPS. L'Adopi, un des premiers résultats de l'Adopi, c'est qu'il y a énormément d'internautes qui ont commencé à se renseigner sur ce que c'est qu'un fonctionnement d'un VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est un tunnel chiffré qui fonctionne sur le principe du HTTPS, qui fait que entre toi et le fichier auquel tu veux accéder, ou la page web auquel tu veux accéder, bah, c'est complètement crypté. Ça ne peut pas être écouté. Bon. Et il y a ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une banalisation de plus en plus des technologies, ce qu'on appelle les Privacy Enhancement Technology, les PET, les technologies de protection de la vie privée. De plus en plus, c'est banalisé et c'est utilisé pour le grand public, parce qu'effectivement, le grand public ne sait pas vraiment se protéger. Mais je vais prendre un exemple très simple. Il a fallu attendre combien d'années entre l'invention de la voiture et l'obligation de mettre une ceinture de sécurité? Les voitures, ça a commencé au début du siècle. L'obligation de ceinture de sécurité, ça date de quoi? Des années 70 ou un truc comme ça?
80-90, hein, c'est assez récent.
Et pendant très longtemps, culturellement parlant, même une fois que c'était obligatoire, et même encore aujourd'hui, il y a plein de taxis qui refusent de mettre la ceinture de sécurité. Pourtant, on sait que ça permet de sauver des vies. Bon, ben voilà. Là, le web, a commencé en 93-95 à exploser. Donc, c'est tout jeune encore. Et de plus en plus de gens utilisent des tunnels chiffrés, des VPN, savent comment se protéger et savent gérer leur vie privée sur le net. Il y a plein de gens qui ne sont pas internautes, qui n'arrêtent pas de déblatérer en disant que les petits cons sur le net sont exhibitionnistes parce qu'ils montent leurs fesses, ils n'ont aucune vie privée. C'est complètement faux. Ceux qui s'expriment sur le net, qui sont des internautes assidus, savent très bien faire la part des choses entre vie privée et vie publique. Ils ne partagent pas n'importe quoi, ils font très attention. Ils sont bien, et les études qui ont été faites par des sociologues sur les jeunes internautes montrent qu'ils sont bien plus sensibles aux questions de vie privée qu'on pourrait le croire.
Oui, mais enfin, la question, c'est quand même de savoir quand est-ce qu'on utilise une nouvelle technologie ou pas. Je veux dire, quelle balance on fait?
T'es pas obligé.
T'es pas obligé, mais c'est quand même un débat à avoir sur le côté... virtuel des choses, c'est une sorte quand même jusqu'où on va dans cette utilisation. Je veux dire, bien sûr qu'on n'est jamais obligé, mais c'est aussi un débat à avoir entre nous tous, quoi, hein. Jeune, pas jeune, quel que soit l'âge ou la situation de chacun, quoi, de savoir quel type de monde on construit ensemble.
Moi, si j'en reviens à mon parallèle avec la libération sexuelle, je pense que le fait que la libération sexuelle et le combat féministe aient changé le regard des gens entre eux et amené plus de tolérance entre les gens, ça a profité à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas plus fait l'amour, n'ont pas eu plus d'amants ou de maîtresses qu'ils n'en avaient auparavant. Ça a été un bienfait pour la société dans son ensemble, le fait de pouvoir lever ces interdits. Et donc là, par rapport à ce qui se passe sur le net et le fait que pour moi, c'est fondamentalement une question de liberté d'expression. Alors après, les gens qui font du business vont dire que c'est profondément, fondamentalement un truc qui fait qu'on peut faire plus de business, mondialisation, etc. Bon, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis journaliste, donc j'ai pas le même, je ne fais pas du business sur le net, même si je suis payé parce que j'écris sur Internet. Mais en termes de liberté d'expression, je pense que le fait, que plus le fait qu'il y ait plus de gens qui s'expriment, qui partagent des informations, bah c'est un bien pour la société en son ensemble. Et on le voit, et on commence à avoir des exemples concrets de fois où, par rapport au pouvoir politique constitué, ou même à des pouvoirs économiques, la force des internautes qui commencent à dire « non mais là vous déconnez » et qui commencent à ridiculiser les pouvoirs en place font qu'effectivement on revient en arrière. Un exemple très concret, c'est la nomination de Jean Sarkozy à l'EHPAD. C'est sur le net que les gens ont commencé à ridiculiser Jean Sarkozy et Nicolas Sarkozy dans ce projet-là de nominer Jean Sarkozy à tête de l'EHPAD. Et ils l'ont fait avec tellement d'humour, tellement d'intelligence, c'était tellement marrant, tout ce qui circulait sur Twitter, sur Facebook, les caricatures, les vidéos, les slogans, Jean Sarkozy partout, etc., qu'en fait, les journalistes ont commencé à en parler sur Internet, et puis il y a des journalistes de presse écrite et de radio et de télé qui ont commencé à faire des reportages également, et ça a permis de parler de ça de façon différente que uniquement les communiqués de presse officiels du Parti Socialiste, des pouvoirs constitués, et je pense sincèrement que ce qui s'est passé sur Internet a permis ou facilité le fait que finalement, Jean Sarkozy n'a pas été nominé à la tête de l'EHPAD. Et on commence à avoir de plus en plus d'exemples comme ça où la contestation est venue du net. Pas seulement, mais en partie. Et où la caisse de résonance de l'Internet a vraiment fonctionné comme une sorte de cinquième pouvoir.
Enfin, moi, je suis sur Internet. Hein. J'utilise Internet pour des raisons aussi, pas seulement privées, mais militantes. Donc, je te rejoins là-dessus. Mais puisque tu parles de la révolution sexuelle, je reviens un peu en arrière, ce souci de transparence, de se mettre en lumière, moi, j'ai un peu vécu ça, et je veux dire, à un moment donné, c'est quel débat on peut avoir entre l'anonymat, le fait de s'exposer, quelle réflexion globale on peut avoir là-dessus.
Il commence à y avoir de vrais débats sur la transparence aux États-Unis, et très intéressant sur justement les limites de la transparence. Par exemple, en Suède, je crois qu'ils sont revenus en arrière sur le fait que tu puisses consulter les fiches, les feuilles d'impôt des autres. Parce qu'on s'est aperçu, ils avaient été jusque-là dans la transparence, sauf que il y a commencé à avoir des utilisations malveillantes de ce genre de mesures de transparence totale, et donc ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc il y a un vrai débat en ce moment, mais c'est pas, pour moi, c'est pas tant par rapport à une question de vie privée qu'une question de vie publique. Je m'explique. Dans mon travail de journaliste, je fais de plus en plus ce qu'on appelle du journalisme de données, data journalisme en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des données, généralement publiques, des fichiers, puis on essaye de voir, de les représenter, de voir ce que ça raconte. Là, par exemple, je suis en train de faire une carte de toutes les lois sécuritaires depuis 15 ans. Donc, je vais chercher dans les données, puis après, j'essaye de le visualiser. Et donc, il y a énormément de réflexions en ce moment sur la question de gouvernement par les données ou de open data, comme on dit, quand on parle de logiciel libre, on parle de données libres. Et donc, il y a des gens qui se battent pour faire que les données possédées par les administrations soient rendues aux citoyens, vu qu'à la base, les administrations sont là pour être au service des citoyens. Et donc là, va se poser des questions de transparence. Exemple concret, est-ce qu'il faut rendre public ou pas les heures de passage de tous les métros et de tous les trains? Est-ce qu'il faut les partager? Si jamais tu fais ça, il y a des gens qui vont dire à la RATP et à la SNCF, mais on va faciliter le travail des terroristes. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais de toute façon, les terroristes, si jamais ils veulent savoir à quelle heure passe le train, ils se mettent et puis ils prennent leur papier, ils vont le savoir. Bon. Et donc, il y a des vrais débats sur la transparence, mais c'est la transparence de données publiques plus que la transparence de données privées. Les gens, ils ne vont pas raconter sur Facebook ou sur leur blog des choses qui sont profondément intimes. Je vais donner un contre-exemple. Il y a un blogueur qui est assez connu, Jeff Jarvis, un blogueur qui est assez connu aux États-Unis, qui lui est très connu parce qu'il bosse beaucoup sur Google et sur l'Internet et sur les nouveaux médias et sur les nouvelles formes de journalisme. L'année dernière, il a eu un cancer de la prostate. C'est pour ça que je parlais du cancer de la prostate tout à l'heure. Et il a fait le choix d'en parler sur son blog, alors que c'est un blog consacré aux nouvelles technologies. Et c'est, là, c'est vraiment, c'était sa vie privée. Il étalait sa vie privée. Et donc, il y a plein de gens qui réagissaient de façon un petit peu bizarre, parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est, pourquoi t'exposes ta vie privée? Et puis d'autres qui disaient, ah, mais moi aussi, ou qui lui donnaient des conseils. Et quelques semaines après, il est revenu, il a réexpliqué en disant, mais en fait, vous avez sauvé ma vie. Et le fait que j'ai parlé de mon cancer de la prostate sur un blog, j'ai probablement sauvé la vie à plein de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de femmes qui parlent du cancer du sein. Donc, il y a plein de femmes qui vont se faire dépister pour le cancer du sein. Et il y a énormément d'argent en recherche sur le cancer du sein. Il y a des campagnes politiques contre le cancer du sein. Par contre, le cancer de la prostate, personne n'en parle. Parce que c'est des hommes, les hommes ne parlent pas de leur vie privée. Donc, il n'y a pas d'argent pour ça. Et donc, il n'y a pas de forum où les gens vont discuter. Et le fait que lui en parle, il dit, voilà, j'ai parlé de mon cancer de la prostate, qui est un truc qui est profondément ma vie privée, mais je suis persuadé que le fait d'en avoir parlé, j'ai incité d'autres gens à aller se dépister, et donc j'ai sauvé des vies. Et paradoxalement, dans certains cas, le fait de parler de sa vie privée, il n'en parle pas n'importe comment, c'est pas n'importe qui, il n'en parle pas n'importe comment, mais paradoxalement, ça peut aussi être bien dans ce système-là de transparence. Après, c'est clair que dans d'autres cas, ça peut se retourner contre toi. Ça peut.
Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une évolution de la notion de vie privée. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent circuler sur Internet qui étaient de l'ordre de privé, qui deviennent donc de l'ordre de la vie publique, qui auparavant était plutôt quelque chose de privé. Mmh.
Le truc, c'est que c'est très difficile de savoir où commence et où s'arrête la vie privée. Il y a plein de gens sur Twitter, le soir sur Facebook, tiens, j'ai regardé telle série américaine. Ils l'ont fait seuls ou avec leurs copains ou leurs copines dans leur chambre ou dans leur lit. Puis après, ils vont dire « Au revoir, je vais me coucher. » C'est de la vie privée. Et ils vont partager sur les réseaux sociaux. Parce que c'est de la vie sociale. Parce qu'il y a plein de gens maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand ils regardent une émission à la télévision, quand ils regardent un film ou une série à la télévision, ils ne vont pas se contenter de la regarder, ils vont en parler. Sauf qu'au lieu d'en parler avec leur conjoint, s'ils ont un conjoint, ils vont en parler sur Twitter. Parce que voilà, ça peut être sympa de parler de... Mais c'est comme des gens qui vont, lors des matchs de foot, ils vont dans les cafés pour pouvoir parler avec d'autres gens qui regardent le foot. Sauf que là, c'est pas dans un café, c'est sur le net. Mais c'est de la vie sociale. Et c'est clair qu'il y a énormément de choses qu'on appelle encore aujourd'hui vie privée, qui en fait ne relèvent pas de la vie privée, qui relèvent de la vie sociale. La différence, c'est que c'est pas la même chose quand t'es un café où il y a 10 personnes, 20 personnes, que quand t'es sur le net, où potentiellement, même s'il y a que 20 personnes qui vont voir ton message, il y en a des centaines ou des milliers qui peuvent, après coup, via les moteurs de recherche ou via le fait que c'est archivé, qui peuvent aussi y accéder. Mais c'est clair que l'Internet est en train, le web, pardon, c'est pas l'Internet, le web, le fait que les gens s'expriment sur le web et partagent des choses sur le web est en train de redéfinir la vie sociale. Et donc, la notion de vie privée, parce qu'avant, tu menais une vie sociale quand tu es au café, mais il n'y avait que les gens qui étaient au café qui l'entendaient. Aujourd'hui, y a plus de gens potentiellement qui peuvent l'entendre. C'est là où, effectivement, il faut faire attention. Mais en même temps, pour prendre un exemple concret, l'année dernière, il y a un journaliste de la revue Le Tigre qui a fait le portrait Google d'un internaute en regardant toutes les photos qu'il avait partagées, toutes les vidéos qu'il avait partagées, toutes les informations qu'il avait partagées sur les réseaux sociaux. Et ça avait effrayé beaucoup de gens, ce portrait Google, parce qu'effectivement, c'était assez effrayant tout ce qu'il avait pu redessiner comme portrait. Et comme j'avais été un des premiers journalistes à en parler de ce portrait Google sur Twitter à l'époque, il y a un journaliste de Mediapart qui a décidé de faire mon portrait Google à moi. Et donc, quelques jours après, j'ai reçu un mail de Vincent Truffy qui me disait « J'espère que tu ne vas pas être choqué, mais regarde ». Et là, j'ai commencé à lire et je me suis aperçu qu'il avait décidé de faire mon portrait Google. Donc, petite sueur froide, ça fait 10 ans que je suis sur le net. Il y a plein de pages qui parlent de moi. Et en fait, à la fin, il a dit « Bon, j'arrête parce que j'ai l'impression d'être un flic. » Mais moi, le seul truc qui me posait problème, c'était qu'il avait trouvé mon numéro de portable que j'avais caché dans un coin à l'intention des informaticiens qui savaient le trouver, mais lui avait réussi à le trouver. Mais c'est la seule chose qu'il a trouvée. En 10 ans de présence active sur le web, il n'a rien trouvé que moi j'aurais pu considérer comme une atteinte à ma vie privée.
Mais je trouve que ça remet en question un certain nombre de choses, même le fait, par exemple, la géolocalisation, de pouvoir sur Internet savoir où se déplace telle personne. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens ont conscience de tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment une évolution, le fait que ça ne pose pas de problème?
Ça pose problème. On n'a jamais autant parlé de vie privée que depuis que Facebook est là. Et depuis Google et depuis Internet. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il a autant été question d'Internet que depuis que, de vie privée pardon, qu'avec l'Internet. Alors que pour moi, le problème, ce n'est pas tant Internet que donc, les technologies de surveillance. sur la géolocalisation. Je ne vais pas empêcher des gens, s'ils ont envie de dire qu'ils sont dans tel café ou qu'ils sont dans telle exposition, de le partager en appuyant sur le bouton Foursquare, qui est le principal réseau social de géolocalisation. Mais il y a Google Places, il y a Facebook, Google et Facebook si on sont en train de s'y mettre également, Twitter également. Bon. Moi, j'y vois pas trop d'intérêt de dire que je suis à tel endroit à telle heure. Bon,
Mais c'est pas que le dire, parce que par exemple, les parents peuvent savoir où se déplacent leurs enfants. Enfin, c'est aussi.
Normalement, dans les systèmes.
Ça peut être aussi à l'insu des personnes, ou alors je pense au vélo.
Non. Dans les systèmes de géolocalisation, si quelqu'un d'autre sait où tu es, c'est parce que tu as autorisé ce quelqu'un d'autre à le savoir. Aujourd'hui, tu ne peux pas, y compris ton enfant, tu peux pas mettre un GPS espion ou donner un GPS espion à ton adolescent si jamais il n'est pas au courant qu'il est géolocalisé par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas géolocaliser un salarié si jamais il n'a pas signé une charte où il est stipulé qu'il va être géolocalisé et surveillé. La loi informatique et liberté est très claire là-dessus. On ne surveille pas les gens à leur insu. Voilà, c'est clair. Comment ça va évoluer dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y aura de plus en plus de systèmes de géolocalisation. Et ce n'est pas seulement le GPS, c'est le GPS, c'est le RFID, c'est la triangulation, c'est le Wi-Fi, etc. Donc c'est clair qu'on va être dans un monde de plus en plus géolocalisé. Donc c'est là où effectivement on va reposer la question de la transparence et où il faut vraiment se poser la question de la transparence, jusqu'où on est prêt à aller ou pas. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de gens que ça effraie, ça, cette possibilité d'être constamment effectivement surveillé ou constamment géolocalisé. Mais le truc, c'est que comme on n'a jamais autant parlé de vie privée qu'aujourd'hui avec cette montée en puissance, j'espère que ça ne va pas être fait n'importe comment. J'espère que les lois vont et surtout que les entreprises qui sont généralement un peu en avance sur les lois vont faire très attention à protéger la vie privée des utilisateurs. Et quand je regarde ce que fait Foursquare notamment, enfin Foursquare, Google et compagnie, ils font très attention à ce que disent les utilisateurs. Et pour prendre au-delà de la géolocalisation, pour prendre Facebook, à chaque fois que Facebook change ses protections, sa privacy policy, sa charte de protection de la vie privée, ils se font rentrer dans l'art par les utilisateurs. Ils font généralement machine arrière. Pas complètement machine arrière, mais un petit peu machine arrière. Donc il y a un contre-pouvoir des utilisateurs qui est réel, sans qu'il y ait de syndicats, sans qu'il y ait de partis politiques. Maintenant, c'est pas mon rêve, un monde géolocalisé. Moi, ce que je trouve très bien avec le net, c'est que les gens ont la liberté d'expression. Là, la géolocalisation à l'insu des gens, c'est interdit par la loi, déjà.
Parce que même si c'est pas à l'insu, je pense par exemple à des salariés, maintenant, s'ils veulent trouver un travail, ils vont peut-être être obligés de signer un contrat de géolocalisation, je sais pas comment.
Une charte d'utilisation du véhicule, ce genre de choses.
Je pense qu'en fait, toutes ces nouvelles technologies font évoluer la société, pas toujours dans le bon sens.
Ah oui, non, mais. Je répète, il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie qui parle de la liberté d'expression sur Internet et une partie qui parle de la société de surveillance. Donc je suis tout à fait d'accord. La banalisation de la géolocalisation, surtout si c'est fait au-delà d'être fait à l'insu des gens, mais contraint, forcé, parce que la quasi-totalité des salariés qui sont géolocalisés par leur patron, ce n'est pas un désir de leur part. C'est obligé, ils n'ont pas le choix. S'ils ne sont pas contents, ils partent. Ça, je ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas normal d'être surveillé en permanence. Ce n'est pas des bonnes relations sociales. Donc là-dessus,
C'est pas l'argument, hein, la géolocalisation. La géolocalisation dans mon entreprise, c'est pour aider les chauffeurs à trouver leur chemin.
Hein, bien sûr.
Je pense que des parents peuvent faire pression sur sur des enfants adolescents pour dire voilà. C'est ça où
t'as pas de portable.
Ouais.
Bien sûr. Non mais c'est évident.
Parce que ça commence par un bébé, on lui met un petit bracelet électronique. Enfin, je veux dire, on commence à s'habituer à tout ça.
On voit de plus en plus de psychologues qui expliquent que c'est pas en surveillant les gens que tu vas développer une bonne vie sociale ou une bonne vie familiale, et que une société qui se base sur la suspicion n'est pas une société qui va permettre un développement harmonieux des individus, que ce soit dans les relations familiales ou dans les relations d'entreprise. Tu as par ailleurs un phénomène nouveau dans les pays anglo-saxons et ça commence à arriver en France, c'est le développement de ce qu'on appelle les surveillance studies. C'est-à-dire que de même qu'il y a eu des cultural studies dans les années 70-80 qui ont commencé à s'intéresser aux questions des minorités, aux questions des genres, aujourd'hui, tu as des universitaires qui se penchent sur les questions de surveillance, des sociologues, des anthropologues, etc. Et qui aussi essayent d'expliquer qu'on ne peut pas penser le développement de la démocratie en faisant une société de la suspicion. Et c'est là où je répète, il y a vraiment une différence entre la liberté d'expression et la suspicion. Il y a une différence entre ce que les gens vont partager sur Facebook et ce qui va se retrouver dans les fichiers policiers. Il y a une différence entre être géolocalisé par son patron ou par ses parents parce qu'on n'a pas le choix et le fait de dire à un moment, je suis à telle expo, elle est super bien.
tu as quand même des gens qui maintenant naissent avec la vidéosurveillance et sont habitués à la vidéosurveillance d'instinct. Tu vois, c'est une modification des comportements.
C'est ce que, ça, c'est ce que raconte je crois que c'est un Canadien qui explique que toutes les personnes qui sont nées depuis la fin des années 70 ont été filmées avant même d'être nées parce qu'elles ont eu une échographie. Et qu'ensuite, dès qu'elles sont nées, il y avait des caméras Super 8, des caméras VHS, des appareils photo qu'on commençait à les prendre en photo alors qu'ils étaient tout bébés, qu'ils ont été mitraillés par les appareils photo et les caméras vidéo je ne sais combien de centaines ou milliers de fois avant même d'atteindre l'âge adulte, et que donc tous les gens qui sont nés depuis les années 70 ont constamment été mis en scène, je ne dis pas surveillés, mais en tout cas mis en scène, photographiés. D'où le fait que cette génération qui arrive aujourd'hui sur le net a une facilité à se mettre elle-même en scène, vu qu'elle a été mise en scène depuis le début. Et en même temps, quand on regarde cette génération, c'est aussi une génération, on a fait très attention à ce qu'ils ne tombent pas, à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises, constamment surveillés par les parents ou par le corps enseignant. Donc ils étaient en même temps constamment surveillés. Donc ils sont habitués un petit peu à ça. Et ça va changer ce paradigme-là de qu'est-ce que c'est que vivre en société. Parce qu'ils y sont effectivement habitués.
Et enfin, pour terminer, il ne nous reste que quelques minutes, mais j'avais quand même envie aussi de marquer une opposition par rapport au fait que tu défends le net du point de vue de l'information. On en discutait tout à l'heure, mais effectivement, des sites qui fonctionnent bien comme Le Poste, ce n'est pas forcément de l'information d'investigation, mais c'est aussi un peu le zapping. Internet, c'est un peu aussi être noyé dans l'information.
À partir du moment où l'imprimerie existe, tu vas avoir des gens qui vont imprimer Le Monde diplomatique, et puis tu vas avoir Le Monde, et puis tu vas avoir Le Parisien, et puis tu vas avoir Le Monde libertaire, et puis tu vas avoir Au Féminin, et puis tu vas avoir des canards de cul, et puis tu vas avoir des canards de catch. Enfin, soit tu acceptes la liberté d'expression pour tout le monde, soit tu l'acceptes pas. Donc effectivement, à partir du moment où l'Internet est là, tu as des choses très bien et tu as des choses moins bien et des choses qui sont carrément pas bien du tout. Mais c'est le principe de la liberté d'expression. Après, sur Le Poste, c'est encore autre chose, ça, c'est la question des médias et du journalisme sur Internet. Mais même sur la question du journalisme sur Internet, tu as tellement de choses qui sont de qualité en matière journalistique sur Internet, y compris fait par des non-journalistes, que je pense vraiment que c'est bien pour le journalisme et c'est bien pour les médias.
Et pour terminer, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu si tu pouvais nous donner des idées de comment se protéger sur Internet, ouais. Ou en tout cas, quels sont les liens qu'on pourrait aller voir, donner ça aux auditeurs au moins, et puis redonner le titre de ton bouquin au passage.
Dans aussi. Le livre, et en même temps, en tant que journaliste, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité informatique avant de participer à la création des Big Brother Awards, parce qu'en tant que journaliste, je voulais protéger mes sources. Et donc, je me suis posé la question de l'anonymat sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de mode d'emploi pour protéger ses sources et pour protéger son anonymat sur Internet. Donc, j'ai commencé à en traduire. Et ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai compilé un certain nombre de ressources qui mis en place paradoxalement. Alors, c'était bien, parce que 10 ans après que je l'ai fait, les services de renseignement français ont aussi commencé à le faire. On a vu paraître 2 modes d'emploi mis en place par des agences qui sont liées aux services de renseignement français pour expliquer aux industriels, aux cadres, aux chefs d'entreprise, comment protéger leur ordinateur. Parce que dans le cas de la guerre économique et de l'espionnage industriel, quand ils franchissent la frontière, ils risquent de se faire piquer leur ordi. Donc, il y a aujourd'hui des techniques qui existent, des outils, des logiciels qui ne sont pas forcément très compliqués à utiliser. Mais c'est un petit peu comme si tu commences à vouloir faire du vélo. Tu ne fais pas ça du jour au lendemain, tu peux un petit peu tomber, ça demande un entraînement. Pour arriver à bien faire du vélo, pour arriver à bien protéger sa vie privée sur Internet, il faut s'y mettre. Donc là, concrètement, pour ceux qui s'intéressent à ça, ils tapent dans un moteur de recherche Gorge Profonde, le mode d'emploi. C'est le nom de l'article que j'avais fait là-dessus, qu'on retrouve également dans le livre. Ou sinon, Bug Browser, et là, il y a un certain nombre de ressources que j'ai listées qui permettent de protéger sa vie privée et de chercher des informations, communiquer, que ce soit par mail, que ce soit par IRC. Il y a plein. L'Internet, l'informatique laisse des traces, mais il y a tellement de hackers là sur l'Internet qui se battent pour les libertés qu'il y a plein d'outils qui permettent de s'y protéger.
Merci Jean-Marc Manaquin.